Voigny. Cette semaine, Céline Lauzen rencontre Bernard Stiegler. Ce soir, errer, penser, bifurquer.
Bernard Stiegler, bonsoir.
Bonsoir.
On s'était quitté hier en évoquant vos jeunes années, votre scolarité et puis votre politisation assez précoce. Plus tard, dans les années 70, il y a ce que vous appelez les années de plomb qui ont teinté votre adolescence. Et dans ce climat, il y a tout de même une lumière, vous l'avez évoqué hier, la naissance de votre premier enfant, Barbara. Vous avez alors 19 ans, on est en 1971. Comment la naissance de votre fille va être déterminante, va provoquer des changements dans votre parcours ?
L'arrivée d'un enfant, c'est quelque chose d'absolument, totalement, imprévisible, qui vous précipite dans la responsabilité adulte aussi. C'est très important. Le devenir adulte est d'un seul coup accéléré comme ça. Vous n'êtes pas, il faut le devenir très vite. Certains n'y arrivent pas d'ailleurs. Moi-même, sans doute que d'une certaine manière, je ne suis pas tout à fait arrivé. Et puis c'est voilà, qu'est-ce que ça veut dire de devoir être adulte? Bah, par exemple, ça veut dire devoir garantir le gîte, le couvert à son enfant. Voilà. Donc c'est tout à fait se trouver d'un seul coup face à des responsabilités que je vais essayer effectivement d'assumer. Donc voilà, je me mets à travailler et à travailler tout le temps. Avant cela, j'avais eu des quand j'avais quitté le lycée, j'avais eu des périodes où je travaillais plus ou moins. Voilà, je faisais des petits boulots comme on dit. J'ai fait un peu de tout d'ailleurs. À partir du moment où Barbara est là, il faut que je travaille, que j'ai un salaire régulier, un appartement, etc. Et donc c'est ce qui va se passer pendant, je sais plus très bien, 2 ans à peu près, où en fait je vais travailler à la ville de Sarcelles.
Là où vous habitez?
Là où j'habite, oui. Où je vais travailler comme agent de planning, voilà, pour planifier les travaux d'entretien de la ville. Ce qui va me faire découvrir le monde du travail du bâtiment. Je vais passer 2 années là, relativement plus calme, même si je continue de toute façon à écouter beaucoup de musique, à consommer pas mal d'alcool et ce genre de choses, mais c'est un petit peu plus régulier. Voilà, il faut s'occuper de Barbara. Mais en même temps, la vie est difficile, je gagne très très peu d'argent, je suis vraiment au minimum, voilà. Et je m'en sors pas. Et donc, nous n'arrivons pas à payer notre loyer, nous, c'est-à-dire Marlène, la mère de Barbara, mon épouse, avec qui je me suis donc marié en 1970, et moi-même, ce qui fait que, en 1973, eh bien nous quittons Sarcelles, à la cloche de bois, comme on dit. C'est-à-dire que nous avons reçu un papier bleu d'un huissier nous indiquant que nos meubles seront saisis à partir de telle date. Voilà. Donc je trouve que...
Donc vous êtes expulsé, vous fuyez?
Nous ne sommes pas expulsés, nous décidons de partir. Quelqu'un, un ami qui s'appelle Richard d'ailleurs, nous trouve une camionnette, on met les meubles dedans, du 6e étage, on descend tout, y compris le piano, parce qu'on a un piano qu'on a bastringue en fait, mais voilà. Et nous partons à la campagne. Pourquoi à la campagne et pourquoi dans cet endroit de la campagne qui est le Lot-et-Garonne? Eh bien parce que les parents de ma femme Marlène ont une ferme à cet endroit-là. Sur le territoire d'un village qui s'appelle Montflanquin, qui est un très beau village, d'ailleurs. Et donc, je travaille quelques mois avec le père de Marlène, qui élève des veaux. Et ensuite, il se passe un certain nombre de mésaventures, mais je ne vais pas tout raconter parce que ça serait trop long. Il se passe plein de choses, en réalité. Et ensuite, je trouve une petite ferme à louer, une fermette, disons, et je me fais embaucher comme chauffeur agricole. C'est-à-dire que je travaille pour ce qu'on appelle une CUMA, ça veut dire coopérative d'utilisation du matériel agricole. Et donc il y a deux chauffeurs, un chauffeur très expérimenté et moi, qui suis encore très jeune, hein, j'ai 22 ans. Et voilà, et pendant un an, un peu plus d'un an, je vais tout faire, les labours, les moissons, oui, les foins, etc., avec du matériel. Donc je vais apprendre, par exemple, à moissonner avec une moissonneuse-batteuse. Je vais beaucoup aimer ça. Et j'adore la campagne. Au début, c'est vraiment la disette, quand même, hein. Vraiment la disette. Je vais à la pêche avec une canne que je me suis faite moi-même, c'est-à-dire un bambou que j'ai coupé. J'ai acheté une ligne chez le quincaillier du coin, une ligne à 2 balles, et je pêche des gardons et des goujons dans le petit espace qui est derrière un moulin à eau, un petit trou d'eau là. Et je suis en train de pêcher comme ça. J'y vais souvent à la pêche parce que c'est souvent ce qu'on mange en fait. Et un jour, ce petit moulin, il est sur la route qui va à ma ferme. Et ma ferme, c'est la dernière. Après, il n'y a plus rien. Et donc, toutes les voitures qui passent vont vers chez moi. Voilà. Et un jour, je suis en train de pêcher. Et je vois passer une R16. À l'époque, R16, c'est la voiture haut de gamme de Renault. Je vois une R16 noire qui passe. Et je me dis, oh, ça me dit rien qui vaille. Donc, la R16 passe. Et 20 minutes après, elle repasse dans l'autre sens et elle s'arrête sur le pont. Et un monsieur descend et me dit, est-ce que vous ne seriez pas monsieur Stigler? Je dis, oui, en effet, je suis Bernard Stigler. Il me dit, je suis huissier de justice. Vous devez, je sais pas combien de milliers de francs à la SIC.
Où vous avez retrouvé, du coup.
Oui. Donc, je viens saisir vos meubles, me dit-il. Et bien, je lui dis, vous pouvez saisir ma canne à pêche et mes poissons. Parce que les meubles, ils sont pas à moi. J'ai loué une fermette meublée. Donc, vous pouvez pas y toucher. Donc, prenez la canne à pêche et les poissons, si vous voulez. Alors, le monsieur est très surpris. Et en fait, il est sympathique. Il me dit, mais écoutez, monsieur, j'ai bien compris. On va arranger votre affaire. Voilà. Et finalement, il vient chez moi. On passe une heure ensemble et il fait un truc, un rapport en disant, de toute façon, ce monsieur n'a absolument rien, donc laissez tomber, voilà. Et je suis débarrassé de ma dette vis-à-vis de la SIC. Donc au début, c'est assez difficile, et petit à petit, les choses vont s'arranger doucement. Je travaille donc dans ces fermes, et un jour, je rencontre, je sais plus très bien comment d'ailleurs, par hasard, un monsieur qui s'appelle Monsieur Longserre, il doit être décédé maintenant, ou alors il est très très vieux, et qui, je ne sais pas pourquoi, il s'intéresse à moi. C'est un agriculteur d'un peu plus loin, pas là du village de Montflanquin, mais de Villeneuve-sur-Lot. Et ce monsieur, je ne sais pas pourquoi, il me prend en affection. Et un jour, il me dit, mais pourquoi tu ferais pas un élevage? Pourquoi t'élèverais pas des chèvres? Moi, j'ai des chèvres. Il a un gros élevage de chèvres, en fait. Il a 400 chèvres laitières. Il me dit, si tu veux, tous les ans, j'en réforme. Eh bien, je te les vends pas cher du tout. Je lui dis, mais j'ai pas d'argent, je veux pas les payer. Il me dit, je te fais crédit. Quand tu auras l'argent, tu me paieras. Donc, comme ça, je me retrouve avec 30 chèvres. L'année d'après, j'ai des chevrettes, etc. Et puis, il me donne aussi des oisillons. Voilà, puisqu'il a aussi 4000 oies, et je me mets à élever des oies, à faire du foie gras. Et finalement, ça va fonctionner pas trop mal.
Est-ce que cette période où vous vous retrouvez un peu reclus, le travail à la terre, dans la ferme, est-ce que ça vous remet un peu les idées en place, ça laisse le temps pour réfléchir?
Alors, me mettre les idées en place, je sais pas, parce que par ailleurs, j'ai planté de la marijuana, et donc j'en fume pas mal. c'est comme ça que j'évite de boire trop d'alcool en fumant, en fait. Je dors plus régulièrement, parce que je travaille énormément. C'est vraiment 12 heures par jour. J'adore ça. Moi, je me sens très bien dans tout ça. Oui, sûrement que c'est clair que je change un peu j'ai une vie beaucoup plus saine, en fait. Après, je me vois très très bien finir agriculteur, moi, donc ça me convient tout à fait. Et ça se passe pas mal, je m'en sors plutôt pas mal du tout. J'ai des bonnes lactations, comme on dit, mes animaux produisent pas mal, je m'en occupe bien. Mais il y a la sécheresse de 1976. Et la sécheresse de 76, c'est une énorme catastrophe agricole. Voilà. Et elle va me tomber dessus. Heureusement, d'ailleurs, je vais la voir venir. Il ne pleut plus à partir de février. Mais non seulement il pleut plus, mais il n'y a même pas de rosée. C'est-à-dire que le temps devient archi sec. Et déjà, je sais pas, au mois de mai, déjà l'herbe est grillée. Et donc je me dis, ça c'est une catastrophe pour moi. Pourquoi ? Parce que j'ai très peu de surface. Donc j'achète beaucoup de fourrage sur pied. J'achète parfois du fourrage bottelé. Et là, je me dis, je vois le prix du fourrage qui monte. J'ai du mal à trouver des agriculteurs qui me vendent leur fourrage sur pied. Et donc, je me dis, je vais devoir vendre les bêtes. Je pourrais pas les nourrir. Et d'un seul coup, je me dis, on vend tout. Voilà. Et je passe une annonce. Coup de bol incroyable. Quelqu'un veut acheter. Il est fou, hein. Il veut acheter. Donc il m'achète toutes mes bêtes, j'ai 80 chèvres à cette époque-là, des chèvres en lactation. J'ai une trayeuse électrique, j'ai du matériel agricole, il me prend tout. Parce qu'en fait, il veut installer sa femme, ce monsieur, et créer une ferme. Voilà. Alors, je vends tout et je rembourse une partie de mes dettes, parce qu'évidemment, j'ai des dettes. Sauf que ce qui va évidemment être la très mauvaise surprise, c'est que je lui ai fait des traites et que la première traite est payée, mais les secondes et troisièmes ne le sont pas. Donc je vais me retrouver finalement avec des dettes. Voilà, entre-temps, comme je crois que je vais être payé, j'achète une espèce d'épicerie à Toulouse, dans un quartier qui s'appelle la Croix de Pierre, et je me dis, je vais monter un petit resto. Et donc, je trouve un petit resto, en fait. C'est une ancienne épicerie qui avait été transformée en restaurant. Mais les gens qui étaient, les épiciers, en fait, avaient essayé de faire un restaurant comme on fait de l'épicerie. Et c'est pas du tout là. On vend pas des boîtes de petits pois et des cassoulets de la même manière. Donc, ils comprenaient rien au métier. Donc, ça marche pas. Et ils décident de vendre. Ils vendent pas cher du tout. Donc, moi, je trouve un petit fonds de commerce. Voilà. Qui est très joli par ailleurs. C'est une maison qui est avec une terrasse autour, avec des jolis arbres et tout ça. Et donc je vais monter un restaurant.
Vous allez transformer l'endroit pour le transformer en bar?
Ah non, ça va rester un restaurant, ça.
Ça reste un restaurant dans un premier temps.
Ouais. En fait, je vais prendre un bar après. Ce restaurant-là, donc qui s'appelle La Marmite en Folie, ça va marcher très très vite, très bien. Voilà. Je vais l'arranger, je vais mettre du papier assez joli et tout ça, je vais arranger la terrasse autour, je vais mettre un petit truc pour faire griller des choses, et en l'espace de 2 mois, je vais passer de 10 couverts à 200 couverts par jour. Voilà. Ça va marcher très 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 bien. En fait, toute la jeunesse, il y a 300 000 étudiants à Toulouse à cette époque-là, donc toute la jeunesse noctambule connaît La Marmite en Folie. Je passe de la musique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire écouter la musique aux gens. Je fais la cuisine et je fais découvrir des musiques de jazz. Voilà. Et donc, plein de gens viennent. Ça ne désemplit pas. Je suis obligé d'embaucher plein de gens, etc. Et un jour, quelqu'un me dit, ton restaurant me plaît beaucoup, est-ce que tu voudrais pas me le vendre ? Je lui vends. Il m'arrive exactement la même chose, il va pas me payer. Mais avec, pareil, exactement pareil. Avec la première traite, je vais acheter un autre fonds de commerce. C'est un bar, cette fois-ci. C'est un bar qui a été fermé par la police, qui était un bar du milieu, en fait, où il s'est passé des choses, voilà, qui était un peu un bar maudit, qui a été fermé plusieurs fois. C'était un bar de prostituées, etc. Donc j'arrive à avoir ce bar pour pas grand-chose. Un bar, ça coûte cher, en général. Quand je dis un bar, c'est pas, j'achète pas les murs ni rien, c'est juste
le fonds de commerce.
Le fonds de commerce. Et donc j'arrive à obtenir ce bar qui lui va marcher très très bien aussi. D'abord, il se trouve en face du marché Victor Hugo, qui à l'époque c'est tout près de la place Wilson à Toulouse. Le marché Victor Hugo, c'est le marché où les restaurateurs viennent faire leurs courses parce qu'on y trouve de la bonne viande, des bons produits pour faire de la bonne restauration. Et donc c'est un endroit où dès 5h du matin, vous avez des gens qui s'installent, à 6, 7, 8 heures, vous avez les restaurateurs qui viennent, qui font leurs achats. C'est plein d'animation, voilà. C'est pas très grand, c'est un petit endroit, mais c'est un peu des toutes petites halles de Toulouse. Et au départ, moi je me dis, je vais faire un bar pour les gens du marché. Et c'est un bar où je passe de la musique de Carlos Gardel, par exemple, des choses comme ça. J'ouvre à 11h du matin, pour l'heure de l'apéro des marchands qui gagnent bien leur vie à cette époque-là, hein, et qui viennent boire le champagne à partir de midi et demi. Voilà, je leur fais à manger. Ça marche très bien. J'ouvre aussi le soir, et le soir, ça marche du tonnerre de Dieu. Ce qui va faire que très vite, en fait, je vais n'ouvrir qu'à partir de 17h le soir. Et ça va devenir un bar de nuit, qui est aussi un bar musical, où je passe... Moi, mon activité, essentiellement, c'est de faire découvrir des disques nouveaux à ma clientèle. Et ensuite, je vais faire venir des musiciens. Donc, ça va devenir ce qu'on appelle un piano-bar, où il y a donc un piano et la place pour une contrebasse, une batterie, et souvent un chanteur ou une chanteuse. Voilà.
Donc c'est un endroit qui attire beaucoup de monde, notamment des philosophes. Un philosophe en particulier qui sera très important dans votre vie, c'est Gérard Granel.
Oui, oui. Ça attire beaucoup de monde, toujours la clientèle que j'avais déjà à la Marmite en Folie, sauf que là c'est une clientèle vraiment beaucoup plus nocturne. Il y a effectivement une partie des étudiants de philo qui viennent pas mal.
Parce que c'est très universitaire aussi.
Voilà, leur prof, Gérard Granel, vient. Granel, à cette époque-là, à Toulouse, c'est une autorité, c'est un notable, si je puis dire. Il détesterait m'entendre dire ça, parce qu'il voulait surtout pas être un notable. Mais disons que c'est quelqu'un de connu, c'est le grand philosophe de Toulouse à ce moment-là. Et en effet, on devient copains. Sur des bases, la musique, il aime bien picoler un peu aussi. Il aime bien s'encanailler un peu aussi, voilà. Et moi, je suis une petite canaille. Gentil, mais quand même, voilà, je suis un peu... Donc on devient amis, et il vient de temps en temps, hein, il vient une fois ou deux par semaine, mais on devient vraiment amis, et quand la vie va devenir plus compliquée pour moi, il va être très très présent pour m'accompagner. Voilà.
On en parlera peut-être plus tard. Mais en tout cas, c'est un lieu où on s'amuse beaucoup, il y a de la bonne musique, aussi un peu de drogue.
Disons que c'est un lieu, il y a ce qu'on appelle la faune nocturne, voilà. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde, les gens font la queue pour entrer. Et évidemment, il y a tout ce qu'on veut, en fait. Il y a beaucoup d'étudiants, mais il y a aussi des noctambules en général, des fêtards, et puis il y a aussi des prostituées, des travestis, et des trafiquants. Des petits voleurs, des marchands de tout, d'héroïne, de tout ce qu'on veut.
Voilà. Et un soir, les flics débarquent et font une descente.
Oui, alors en fait, il y a eu une bagarre entre des parachutistes, parce qu'à cette époque-là, il y a un régiment de parachutistes dans le coin, pas à Toulouse même, mais pas très loin, ils débarquent de temps en temps. Moi, dans mon bar, il y a des gens, mais les gens qui travaillent pour moi d'ailleurs sont algériens et marocains. Et un jour, il y a une bagarre entre ces paras, qui sont très racistes en général, et mes serveurs, qui sont plutôt costauds, et ça cogne dur, voilà. Donc la police arrive et tout ça pour calmer l'affaire, mais 2-3 semaines plus tard, la police débarque en force, et de manière très spectaculaire, avec des chiens policiers, des pistolets mitrailleurs, arrête tout le monde, main en l'air, et trouve plein de gens en situation irrégulière, avec par exemple des sachets d'héroïne, avec cannabis bien sûr, et des gens aussi qui étaient recherchés par la police. Donc à partir de là...
Ils vous embarquent ?
Moi, ils m'embarquent pas, mais ils me convoquent le lendemain au commissariat.
Pourquoi ?
Et donc le lendemain, je suis reçu par le commissaire Castex. Je me souviens très bien de son nom parce que son fils... qui était un étudiant des Beaux-Arts, avait fait mon bar. Voilà. Donc je connaissais son fils, et je savais que son père, quand il travaillait chez moi, était le commissaire de police de Toulouse. Voilà. Et donc le commissaire Castex, qui est plutôt agréable d'ailleurs, un monsieur plutôt cordial, m'explique assez gentiment et poliment, vous savez bien, monsieur Stigler, il m'appelle monsieur Stigler encore à ce moment-là, voilà. Vous êtes un commerçant, vous savez très bien que quand on tient un bar, il faut rendre un peu de service à la police. Et donc il me sort un trombinoscope avec des photos de plein de gens, en me disant tous ces gens-là on les surveille, ceux-là on sait qu'ils viennent dans votre bar, donc quand vous les verrez, il faut nous appeler.
Donc il vous fait du chantage pour être indique. en quelque sorte.
Oui, comme ce qu'ils font avec tous les bars où il y a des gens qui du milieu qui y passent, hein, milieu, pas forcément du milieu, mais enfin des gens suivis par la police. Donc moi je dis rien, je ne dis pas non. Mais je rentre le soir, ça se passe vers 2-3 heures de l'après-midi. Donc je retourne à mon bar dans l'après-midi, je téléphone à un de mes employés et je lui dis tu vas me trouver un serrurier et on va faire installer une sonnette avec une serrure électrique, etc. Et je t'expliquerai plus tard pourquoi. Donc le serrurier vient en urgence, il installe le truc et à partir de là, moi je ne suis plus au bar à choisir les disques, je me mets à la porte. Et chaque fois que je vois quelqu'un dont j'ai vu la photo au commissariat de police, je lui dis, écoute, je suis désolé, mais je t'ai vu en photo au commissariat, donc je te conseille de changer de quartier.
C'était audacieux.
Ce qui va énormément énerver la police, et qui ensuite va me persécuter, finalement fermer mon bar. Voilà.
Par ailleurs, il y avait le plan de Raymond Barre, il me semble, dans ces années-là, qui va un peu accélérer la ruine de votre affaire.
Bon, enfin, oui, il y a eu ce qu'on appelle le plan Barre. C'était le deuxième plan Barre, parce qu'il y a eu plusieurs plans Barre, comme on disait. Donc c'était notamment des mesures qu'avait pris donc Raymond Barre, qui était le premier ministre du président Giscard d'Estaing, pour en particulier assainir les dettes des commerçants et donc diminuer les autorisations de découvert. Ça va se combiner avec le fait que à 300 mètres de mon bistrot, tout à côté de la place Victor Hugo où j'ai mon bar, sur l'avenue Alsace-Lorraine, il y avait un bar qui s'appelait le Bar Belge, qui était bourré à craquer jusqu'à ce que j'ouvre moi mon bar, et je lui ai piqué au moins la moitié de sa clientèle. Donc ce type-là me déteste, et il se trouve qu'il est copain avec le directeur de mon agence bancaire. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ben, du jour au lendemain, on va me supprimer mon découvert. Et comme je suis pas du tout un bon homme d'affaires, je m'en fous en fait de faire des affaires. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de faire des choses sympathiques. Et donc, j'ai aucune réserve financière. Et je vais me retrouver sans pouvoir payer mes fournisseurs. Et j'ai 90 jours de bière, comme on dit, c'est-à-dire de fourniture de boissons à payer. Donc, à partir du moment où mes fournisseurs reçoivent une traite impayée, tous débarquent en me disant on veut être payé, sinon on vous livre plus. Donc effectivement ils ne livrent plus, donc je ne peux plus faire tourner ma boutique. Eh bien je décide d'aller braquer ma banque. Voilà. C'est un coup de folie, mais j'étais un peu dingue à cette époque-là quand même.
Vous aviez 25 ans, c'est ça ?
Oui, je devais avoir 25 ans, ouais, c'est ça. Ouais. Voilà, donc bon, mais ça fait partie. Effectivement, vous parliez tout à l'heure des années de plomb, des années 70. Ou hier, je ne me souviens plus. Ces années 70, ce sont des années très particulières. Beaucoup, beaucoup de mes amis tournent mal, comme on dit. Deviennent drogués, gravement drogués. Il y en a qui se suicident. C'est vraiment une période... Les Brigades Rouges apparaissent en Italie, la bande Abadère apparaît en France,
du terrorisme, de la mélancolie,
etc. Et donc il y a une espèce de changement, parce que c'est la gueule de bois de 68, d'une certaine manière. Voilà. Et ce qui fait qu'il y a une... Ça commence à... C'est la fin des Trente Glorieuses.
Ça va mal.
C'est le début de la crise économique avec l'OPEP qui remonte les prix du pétrole, etc., etc. Ça commence à aller mal, voilà.
Et vous donc... dites ça pour justifier un peu cette action, ce passage à l'acte?
Bah moi je dis pas du tout que moi j'ai fait ça parce que j'ai besoin d'argent, hein, faut être clair. Et j'avais deux avocats. Le premier avocat, qui s'appelait Jean-Marc Dillan, qui était un de mes clients en fait, m'a dit il faut que tu plaides l'action politique et tout. J'ai dit pas question, je suis anti-terroriste, je déteste les terroristes et j'ai horreur de ce genre de... Donc voilà, j'ai jamais voulu plaider ça. Non, c'était pas du tout politique. Voilà, c'était un coup de folie. J'avais besoin de l'argent. Effectivement, j'avais le sentiment que c'était injuste parce que mes affaires marchaient très très bien. On me les casse d'un coup. Voilà, mais bon.
Vous dites que c'est un coup de folie, mais vous allez le faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois.
Oui.
Et c'est la cinquième fois?
Non, quatre fois. Quatrième fois que je suis arrêté.
Oui, pardon. Quatrième fois.
Oui, mais le problème, c'est qu'à partir du moment où, quand vous faites ça, vous entrez d'un seul coup, vous êtes entré dans la clandestinité. dans quelque chose qui est absolument interdit et qu'il faut dire absolument à personne. Donc, psychologiquement, vous changez. Voilà. En plus, en fait, le premier braquage que j'ai failli me faire prendre. En fait, pour tout vous dire, j'ai braqué ma propre agence. Donc j'étais grimé et tout ça, mais il y a quelqu'un à l'agence qui a dit « mais ça ressemble à nos clients, ça ». Et donc
vous avez mis une perruque.
Oui, j'ai mis une perruque, une fausse moustache, vraiment. Et c'est presque du grand guignol, en fait. Hein. C'est complètement... voilà. C'est pas du tout professionnel, comme on dit. Donc il y a quelqu'un qui dit « mais ça ressemble à Stigler, voilà, à un de nos clients ». Il se trouve que la police, du coup, va foncer chez moi... Et elle va pas me trouver. Et je sais plus comment ils vont s'apercevoir. En fait, je suis au jardin des plantes avec mes enfants. Parce qu'entre temps, j'ai eu un deuxième enfant qui s'appelle Julien. Et je garde mes enfants au jardin des plantes de Toulouse. Et les flics me suivent au jardin des plantes. Et ils me voient jouer avec mes gosses, on fait du manège, tout ça. Ils se disent, mais c'est pas un type qui a braqué une banque, c'est pas possible.
C'est pas possible.
Et finalement, je rentre chez moi avec les enfants. Et arrivé chez moi, paf, ils débarquent. Main en l'air, tout ça. Bon, ça choque un peu les enfants. Et bon, je leur dis, vous êtes malade, qu'est-ce qui vous prend, tout ça. Et finalement, je les convainc. Ils se disent, c'est pas possible, ça peut pas être ce type-là. Sauf que, un bon policier, il ne lâche jamais un suspect. Et un jour, parce que à côté de chez moi, il y a un petit bistrot qui s'appelle les Trois Piliers. Et je vais toujours prendre mon café vers 2h de l'après-midi, je me lève très tard. Et un jour, je vais boire mon café au bar des Trois Piliers, et Willy, qui est le garçon de café, qui a... après j'ai appris que c'était un truand d'ailleurs, il me dit, regarde dans la glace derrière moi. Il me dit, tu vois la 4L là? T'as vu le mec qui est dedans? C'est un flic, il te suit partout. Et donc, j'entre dans un truc...
La paranoïa.
De parano, ouais, enfin disons que, voilà. Et à partir de là... Voilà, je suis entré dans... Ça, c'est une bifurcation. Ma vie a bifurqué. Je suis devenu quelqu'un qui est... voilà, hors la loi, comme on dit. Ce qui est grisant, un peu. En plus, quand on attaque une banque, enfin, quand on fait ce genre de choses, on a une production d'adrénaline absolument exceptionnelle. Et d'un seul coup, on vit une espèce de chose qui ne peut pas arriver autrement. On y prend goût, en fait.
On y prend goût et vous prendrez goût plus tard à la philosophie, on en parlera demain. Merci Bernard Stiegler. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous retrouverez demain la suite de cette rencontre de Céline Lauzen avec Bernard Stiegler. À voix nue. Réalisation Guillaume Baldi, prise de son Georges Thau, attaché de production Daphné Abgral, coordination Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr.